Le dernier cours, on a fait sur chapitre, le début du chapitre 5. Le chapitre 5 est un chapitre qui est relativement court. Et si vos souvenirs sont bons, on avait terminé aussi à l'oral la fin du chapitre 5, qui est pour un chapitre qui est pas long. De toute façon, quoi qu'il en soit, si ça n'a pas été fait, on rattrapera plus tard. Alors, donc on est à la page 76. On va commencer le chapitre 6.
Avec un 7 devant, c'est 16 alors. C'est pas un 7.
Bon, alors avant de commencer le chapitre 6, je dois d'abord vous expliquer que sur le chapitre précédent, il y a beaucoup de commentaires du Rabbi. C'est des chapitres qui sont très profonds, on a essayé de les simplifier au maximum. Parce que c'est des notions qui sont très complexes. Je pense que dans un premier passage, même dans un deuxième passage, il faut survoler. Là, pas tout de suite rentrer dans les détails parce qu'après on s'embrouille et si on sort avec des complications, c'est pas le but. D'accord ? Donc, au moins, notre but dans ce cours, c'est de survoler le sujet, de ressortir avec quelque chose de concret, Bezrat Hashem. On y va. Le thème d'aujourd'hui, on va s'arrêter sur le mot Elohim. Vous savez que Hashem a deux noms principaux, Hashem et Elohim. C'est les deux noms qu'on utilise pratiquement tout le temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a fait un cours, ça fait quelques semaines, je crois que ça fait 3 ou 4 semaines, dans lequel on s'est arrêté longuement sur le Or et le Keli. L'énergie et le réceptacle de l'énergie. L'énergie et le réceptacle de l'énergie. Mais on s'était plus arrêté sur le nom de Hachem, Yudke Vavke. L'énergie, l'omniprésent, Kadosh Baruch, qui est le passé, le présent et le futur en même temps. Okay. Aujourd'hui, ce qu'on va développer, c'est la notion de Elohim. Elohim, ça veut dire c'est Dieu, comment Dieu se cache dans la nature. Alors, en fait, la question qu'on va se poser, c'est la vraie question qui nous dérange depuis en vérité un bon bout de temps. Ouais. Et aujourd'hui, je pense qu'on aura un élément de réponse. C'est, étant donné que Dieu se cache, nous, dans les êtres humains, on ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Donc, si on ne voit pas Akadosh Baruch Hu et que Dieu se cache, qui nous prouve qu'il est réellement ici?
Ses actions.
En d'autres termes, je vais formuler la question un peu différemment, dans les termes de la Kabbalah, pour que la question soit un peu plus claire. Est-ce que le Tzimtzum, est-ce que la compression, la contraction d'Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'elle est authentique ou pas? Parce que, normalement, moi, si je vois, je veux bien y croire. Maintenant, si je ne vois pas, alors c'est bon, il n'est pas là.
Enfin, ça rejoint un petit peu la question que j'ai posée il y a 2 ou 3 cours en arrière, en disant, vous me demandez d'aimer quelqu'un que je n'ai pas vu, que je ne connais pas, je n'ai jamais entendu, tout ça.
Donc, en d'autres termes, la question est la suivante. On te dit, tu es en train de me dire, c'est ce qu'on va développer, que par rapport à Hachem, rien n'a changé. Dieu ne s'est jamais contracté, c'est que nous qui ressentons cette contraction. Qui te dit que par rapport à Hachem, il s'est pas contracté? Qui te dit que c'est pas dans les deux sens? Que moi, je le sens pas, et que lui aussi, peut-être, il me sent moins. Qui te dit que pour Hachem, rien n'a changé, mais il me sent exactement comme si qu'il n'y a pas de M. Benita?
Oui.
C'est à ça.
Non.
D'accord?
L'introduction,
c'est l'introduction, là, on est encore.
Le débat, c'est. Et même dans l'introduction, il peut y avoir des questions.
Ok? Qui nous dit?
C'est intéressant ce que vous dites, et c'est dommage de ne pas.
Approfondir. Développer.
M. Benita, quand vous voyez la promo d'un film, vous ne posez pas toutes les questions. Non, je dis, bon, j'ai vu le film, j'ai des questions, on va attendre de voir le film, après bon.
Ben là, il n'y a pas de promo, là, il y a un cours.
L'introduction, c'est la promo.
Déjà, vous voulez. Vous dites,
bon, monsieur Benita, en clair, Scoutchouya.
Entre Elohim et Hachem. Et Adon Hachem. Déjà, dans le schéma qui est le plus important, on dit 2 fois Hachem, Hachem. Il n'y a même pas le mot Elohim.
La réponse est ici.
Alors, réponse.
Perek Vav. Chapitre 6. Page 76.
Merci, Charles.
Mais est Shem Elohim.
Doucement.
Ou Shem Midat Agvura Vatimtsum. Le nom Elohim.
Compressé.
Est le nom qui représente la tribu de Gvura. De rigueur d'Akadosh Baruch Hu. S'il vous plaît, Rabotai. On va avancer un peu, on fait quelques pauses. Le nom Elohim. Ou Shem Agvura Midat Agvura Vatimtsum. Et le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui représente la Gvura, la rigueur d'Hachem, et le Tzimtzum, la contraction. Velachen, c'est pour cela, ou gam ken begimatria hateva. C'est pour ça que le nom Elohim, valeur numérique de Elohim avec un hey évidemment, c'est 86. Aleph 1, lamed 30, hey 5, yud 10, mem 40. Vous avez compté ou pas, ou vous faites confiance comme vous voulez, ça fait 86. 86, c'est la même valeur numérique que le mot hateva, la nature. Pourquoi? Pourquoi le nom Elohim a la même valeur numérique que hateva? Parce qu'en fait, la nature, c'est le plus grand bluff du monde.
Ah oui, c'est la nature.
Quand on, par exemple, tu veux expliquer à quelqu'un, tu dis, comment tu expliques ça? Si tu ne crois pas en Dieu, il va dire, c'est un phénomène naturel. Mm-hmm. Mais c'est quoi la nature?
Bonne question.
C'est quoi la nature?
Eh oui.
C'est-à-dire, tu bottes en touche. Tu me dis, c'est naturel. Oui, mais naturel, c'est-à-dire quoi naturel? Qui a créé la nature? Ah, c'est la nature. La mère nature. Alors, en hébreu, comment on dit nature? On dit teva. Teva, en hébreu, ça vient aussi de la racine de touberou, noyer. D'accord? Noyer. Mm. C'est-à-dire quoi, noyer? Ça veut dire que tu peux avoir des éléments qui se passent dans la mer, mais qui sont noyés, que personne ne voit. C'est la même énergie. Je peux avoir un moteur qui est devant moi, je peux avoir ce même moteur qui est noyé. Noyé, ça veut dire que personne ne le verra, il est noyé dans la masse, mais en vérité, la chose se passe toujours. De la même façon. La différence qu'il y a entre la conduite naturelle et la conduite surnaturelle, c'est pas que la conduite naturelle, ça se passe par la nature, et la conduite surnaturelle, ça se passe par Dieu. Tout se passe par Dieu. Seulement, la différence est-ce que la conduite divine est dévoilée, ou est-ce qu'elle est noyée dans la nature, dans ce qu'on appelle la nature?
Et noyée.
Oui, mais noyée, mais elle est, c'est toujours Dieu.
Oui, d'accord.
Je donne un exemple. Imagine-toi par exemple que voilà, cette table, maintenant, je vais la lever. Oh, là, c'est moi qui l'ai levée.
Oui.
Maintenant, je peux faire autre chose. Je peux faire ça.
Ah oui.
Elle s'est levée toute seule, la table, t'as vu?
Ah,
regarde, c'est des magies, elle s'est levée toute seule.
Oui.
Non, vu que tu sais que c'est moi.
Oui.
Elle s'est levée toute seule, c'est une table magique. Il y a une table magique ici, elle s'est levée toute seule. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est bien ma main qui a fait lever la table? Bien sûr. Seulement, là, tu l'as vu. Là, je l'ai noyé, je l'ai camouflé, je l'ai caché.
Mm-hmm.
C'est la même chose. La différence entre le nom Hachem et le nom Elohim, c'est que le nom Hachem, c'est l'expression divine qui est dévoilée. Tu vois clairement l'expression d'Akadosh Baruch Hu. Et le nom Elohim représente l'expression divine, bonsoir, l'expression divine qui est camouflée, qui est noyée. Voilà pourquoi le nom Elohim a la même valeur numérique que Hateva. Pourquoi? Il explique. Les filles, Shemastir à Or chez le mal. Parce que le nom Elohim dissimule la lumière d'en haut, Amehave ou Mechaye Aolam, qui fait vivre et qui crée le monde. Ok? Et continue. Venir e keilu Aolam omed mitnaï bederech hateva. Et donc, du coup, quand tu observes le monde et que tu ne sais pas ce qui se passe derrière, tu as l'impression comme si le monde était constant et qu'il régit selon les lois de la nature. Parce que là, il y a encore une autre traduction. Je viens de vous dire que teva, ça veut dire, ça vient de la même racine que noyer. Maintenant, teva, ça vient aussi de la même racine que matbera. C'est quoi matbera? C'est quoi en hébreu matbera? Matbera.
L'argent.
Une pièce. Pourquoi on appelle matbera une pièce? Parce qu'une pièce, normalement, elle est à l'effigie de quelqu'un. Il y a sur une pièce, il y a toujours quelque chose qui est tamponné. D'accord? Matbera. Voilà, il y a une pièce, il y a un tampon dessus. Et donc le tampon, c'est quelque chose qui est fixe. C'est-à-dire, tout le monde sait, par exemple, que sur la pièce de 2 euros, il y aura une forme spécifique. La pièce de 5 euros, enfin, peu importe. La pièce de 1 euro aura une forme spécifique. Et à l'époque, c'était les rois. Chaque roi, dès qu'il devenait roi, il enlevait toutes les pièces de la circulation du roi d'avant et il faisait une nouvelle pièce à son nom. Donc de là, les Chachamim nous expliquent que c'est quoi le mot teva. Teva, ça veut dire noyé. Mais teva, ça veut dire aussi quelque chose qui est ancré, marqué. Quelque chose qui est fixe. C'est exactement la définition de la nature. Ce que je viens de vous dire, les deux définitions que je vous donnais, c'est la définition de la nature. La nature, c'est ce qui cache l'énergie divine, ce qui noie l'énergie divine, tu la vois pas. Et c'est aussi quelque chose qui est constant. Et du coup, cette constance te trompe. Parce que quand tu vois quelque chose qui fonctionne, tu vois le soleil qui se lève tous les matins,
mais c'est naturel,
qui se couche tous les soirs. Donc tu vois une certaine constance qui fonctionne. Donc tu te dis, si ça fonctionne, ça marche. Donc tu vois, par exemple, tu vois qu'il y a des saisons. D'accord, il y a les saisons, il y a la pluie, il y a le soleil, etc. Si c'était pas constant, je vais dire, faut prier pour que ça vienne, parce que sinon ça viendra pas. Mais quand c'est constant, que de toutes les façons tu sais que voilà, c'est le cycle de la vie, c'est le cycle de la nature, et que c'est un cycle. Mm-hmm. C'est matbea, c'est quelque chose qui est ancré. Du coup, ça fait en sorte que tu ne ressens pas forcément le besoin de dire il faut aller chercher à Kadosh Baruch pour chercher un miracle. Ça, c'est Teva, c'est la nature.
Sauf que dans la nature, ou l'exemple de la pièce, elle est toujours la même. Alors que là, dans la nature avec le tampon, il y a des évolutions de la nature. Elle n'est pas toujours pareille. Quelquefois, il y a des inondations, quelquefois, il y a des trucs. Donc, on ne peut pas dire qu'elle est vraiment
Ça fait partie, vous avez raison, ça fait partie de la nature, mais justement, on parle de, à ce moment-là, on parle de catastrophe naturelle.
Il y a des désordres.
Parce que normalement, par définition, la nature, c'est stable.
Justement,
la nature c'est stable.
C'est stable parce qu'il y a des règles.
Parce qu'il y a des règles, on dit que c'est les règles de la nature. Et là, on parle d'un dérèglement, justement. Là, par définition, Teva, c'est quelque chose qui est fixe, qui est réglé. Et plus c'est réglé, et plus Dieu se cache. Parce que tu ne sens pas le besoin d'aller le chercher, tu dis ça marche. Quand tu as un moteur qui tourne, tu ne vas pas ouvrir le capot. Tu dis, tant que ça tourne, je vais ouvrir le capot. Quand le moteur a des problèmes, là tu vas ouvrir le capot. Donc le problème du Teva, c'est quoi? C'est que comme le monde tourne, il tourne, et qu'il ne s'arrête pas de tourner, personne n'a envie d'ouvrir le capot. Alors, maintenant, tu dis, tu sais, moi, en vérité, là, il faut appuyer sur ce bouton, il y a un capot, il faut l'ouvrir, il y a un... Qu'est-ce que tu prends avec ton capot, moi? Ça marche. Hein? On ne change pas une équipe
qui gagne, qui marche.
Oui,
c'est Teva. Tu as une garantie illimitée.
Ah, c'est Teva. Donc, deux choses dans Teva. Teva, ça veut dire noyer. Et Teva, ça veut dire aussi... Teva, ça veut dire aussi illimité. Le cycle, la constance, ce qui est fixé. Maintenant, il continue. Il dit, ici...
C'est sous garantie.
Ou me ave ma'in, donc Veshem Elohim Zé, ce Shem est ce nom de Elohim. Où, je suis en bas de la page... page 77, en haut. Veshem Elohim Zé, et le nom Elohim, ou magen venartek le Shem Avayé, est un bouclier et un fourreau, pour le nom de Avaya, le nom de Yudke Vavke. Les Alim, Or, Vachayut, et Mishar, Mishar, Mavaye, ou Mavim, Aïn, Liesh, chez le Galel, et Nivraim, Vibatlum, Mtiout. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est que si, ça, là, il résume ce qu'on expliquait en chapitre 4 et 5, que si Akadosh Baruch Hu se dévoilait clairement à nous directement avec l'énergie de Yudke Vavke, on aurait brûlé. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il y a un fourreau. Ce fourreau, c'est le Shem Elohim. Le nom Elohim qui fait en sorte que toi, quand tu vois que de la nature. Tu vois rien. Seulement, tu dois utiliser ton cerveau pour comprendre que derrière cette nature, dans les coulisses, derrière cette nature, il y a un moteur. Et c'est quoi ce moteur, ça, Kadosh Baruch Hu? Mais tu ne le vois pas avec tes yeux.
Central.
Pour l'instant, on n'a rien appris de nouveau. Ça, on a déjà expliqué dans chapitre 4 et 5.
C'est l'énergie.
Ok. Maintenant, on va aller plus loin. D'accord. Et là, regardez où va nous amener. Aujourd'hui, le chidouche qui va nous amener, c'est qu'il va nous expliquer qu'en vérité, la rigueur divine est une bonté.
Bonté.
C'est une bonté. Et là, c'est très fort ce qu'il a expliqué. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que la raison pour laquelle la cathédrale se contracte, parce que s'il ne se contracte pas, alors automatiquement on aurait brûlé. Bon, mais concrètement, il s'est contracté. Là, le Morazaken va pousser le bouchon un peu plus loin. Il va dire, en vérité, je vais te prouver que la rigueur est une bonté. La rigueur divine est une forme de bonté. Que Elohim, c'est autant de la bonté que Yudke Vavke. Mmh. Comment? On va expliquer tout de suite. Vahare. Alors, on va tourner la page. Vahare. Page 78. Vahare. Prinat gvurazo vetsimtsum hazé ou gamken prinat reset. Si on réfléchit, cette gvura, cette rigueur d'Akadosh Baruch Hu, et ce tsimtsum, cette contraction qui a permis de créer le monde, ou gamken prinat reset est aussi appelé est aussi un aspect de chesed, de la bonté d'Hachem, She'aolam ibanebo, par lequel le monde a été créé. Pourquoi? Parce que, il faut voir, on est dans un monde dans lequel il faut voir le résultat. Vous savez, des fois les gens ils ont beaucoup de bonnes intentions, de grandes intentions. Des fois tu veux rendre service à quelqu'un, et dans les faits, ce que tu l'as fait, tu l'as desservi.
Tu l'as embêté.
Je vous donne un exemple.
Ça fait l'effet inverse.
D'accord? Imaginez par exemple que, imaginez par exemple que votre enfant a des difficultés à l'école. Vous avez décidé de lui payer un prof particulier. Maintenant, vous vous dites, si je lui paye un prof particulier, je ne vais pas prendre Stam un prof particulier. Je vais lui prendre un prof particulier de top, très haut niveau, ouais. Top de top. Le problème, c'est que ce prof particulier, il est d'un trop haut niveau. Ok? Il a un niveau universitaire. Et votre fils, il n'est pas à l'université. Vous voulez son bien. Donc vous allez lui enseigner. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce bien que vous voulez lui donner, non seulement que votre fils ne va rien en bénéficier, mais peut-être même qu'il va le détruire. Parce que ce prof, quand il voit que le fils ne comprend pas, qu'est-ce qu'il va dire au fils? T'es un brel, t'es un bon à rien, etc. Donc toi, tu voulais lui rendre service. Mais non seulement que tu l'as pas rendu service, mais en vérité, tu l'as détruit. C'est-à-dire que des fois, en voulant rendre service à quelqu'un, tu le détruis. Ok, ouais. Maintenant, on va appliquer ça par rapport à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il crée le monde. C'est une grande énergie. Si Kadosh Baruch Hu ne contracte pas, ne compresse pas cette énergie, non seulement qu'on va exploser, mais ça va se retourner contre nous. C'est que tu veux rendre service à quelqu'un, mais si la personne n'est pas adaptée pour recevoir ton service, le service que tu vas lui rendre peut en vérité le détruire. Ouais. C'est ce qu'il explique ici. Donc, la gvoura qu'on a ici, l'expression de la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, est en vérité un chesed. Ça fait partie du chesed. Ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, gvoura vezoi prinat gvoura akloula bechesed. C'est la gvoura qui est incluse dans le chesed. La gvoura, la rigueur, qui est incluse dans la bonté. Ça veut dire que dans toute bonté, il faut avoir un aspect de rigueur. Si tu n'as pas de rigueur dans la bonté, cette bonté est contre-productive. Vous me suivez? On peut donner plein d'exemples dans la vie sur ça. J'ai parlé d'éducation, j'ai parlé dans les affaires.
Je ne comprends pas pourquoi c'est un cède. Parce que normalement, s'il induit cette règle-là, sans cette règle-là, tout le projet qu'il a fait, il marche.
Eh bien, très bien, je vais donner un exemple. C'est quoi pour toi du chesed dans ta vie à toi? Donne-moi un exemple dans ta vie, pour toi. Un exemple qui se passe par la tête. Donnez la tzedaka. Ok. Il y a un pauvre qui vient à la synagogue, qui demande la tzedaka. Je lui donne, c'est du chesed. Est-ce que je lui donne sans limite? Attends, une seconde. Est-ce que je lui donne sans limite? Il vient tous les jours.
Bien sûr, il faut la limite, évidemment.
Pourquoi il faut la limite?
Il y a un rab qui dit que celui qui vient te demander. Il faut pas ne pas lui donner.
Non, j'ai compris.
Ah oui, d'accord, mais combien?
Combien?
Tu peux lui donner.
Imagine-toi que tu peux lui donner jusqu'à la fin de ses jours.
Amen.
Ah, c'est pas si simple.
Non, c'est pas bien.
C'est pas si simple.
C'est pas ton compte.
Non, mais ça, je comprends, c'est pas ton compte. Mais il faut comprendre que donner sans limite n'est pas forcément productif.
Oui, parce qu'il n'est pas pour un enfant, c'est pareil.
C'est pareil pour un enfant, exactement.
Comment tu vas lui donner un enfant?
Comment tu vas donner? Tu vas acheter des cadeaux?
Un iPhone tous les jours.
Tous les exemples sont bons. Parce que il y a une notion que explique Stéphane Morazaken, c'est que un chesed qui n'est pas canalisé. Un chesed qui n'est pas canalisé n'est pas un chesed. À terme, c'est pas un chesed. C'est détruire la personne. T'es obligé de le canaliser. Et donc, dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle, il faut toujours un gvura akloula bechesed. Il faut toujours la rigueur qui est incluse dans le chesed. Une rigueur qui est incluse dans le chesed. Sans laquelle, si tu n'as pas la rigueur de la bonté, cette bonté est contre-productive.
Ça veut dire qu'il faut rigueur.
Par contre. Bien sûr. Parce que, une bonté qui ne prend pas en compte les besoins de l'autre et qui ne prend pas en compte la productivité de la personne qui est en face de toi, en vérité, c'est une bonté dans laquelle tu dis, moi je donne, mais qu'est-ce que lui a reçu? Moi j'ai donné à mon fils, mais qu'est-ce que mon fils a reçu en face de moi? Est-ce qu'il a reçu? Est-ce qu'il a profité de ce que j'ai donné?
Mais dans l'exemple
d'accord
de la tzedaka, ça peut pas marcher.
Ben, pourquoi ça peut pas marcher?
Dans l'exemple de la tzedaka, toi tu peux parler d'un enfant, où tu as un père et tu parles de ton enfant, parce que tu sais plus ou moins comment ça va fonctionner. Mais dans quelqu'un qui vient, qui te demande la tzedaka, tu peux pas te mettre à sa place parce que tu sais pas qu'est-ce qu'il est dans sa place. Donc tu peux pas toi lui dire et je vais te donner ça et c'est pas bien pour toi. Lui, il vient te voir, il a besoin.
Ok, j'ai une question à te poser.
Imagine-toi
que tu es multimilliardaire.
Amen.
D'accord.
Amen.
Et qu'il y a un pauvre qui vient te demander la tzedaka. Tu pourrais lui donner 1 million d'euros.
Tu les as. Si tu lui dis ça, c'est que tu lui.
Attends, deux secondes.
Si tu lui dis ça, et que tu dois lui donner, c'est que
pourquoi
c'est pas
de 20 millions d'euros.
Mais c'est pas ton argent.
Pourquoi tu lui donnes 50
millions d'euros?
Je comprends. Pourquoi de 20 millions d'euros?
50 500 euros. Parce que
je n'étais
pas dans ma poche.
Imagine, tu lui dis ça.
Je lui donne.
Imagine-toi que voilà, tu es Bill Gates, tu es, je sais pas, comment il s'appelle, Amazon.
Bill Gates, il n'a pas dans sa poche non plus.
Pourquoi donner 1 million?
Oui, bien sûr.
Je veux dire, Amazon.
Pourquoi donner 1 million? Si tu les as.
Moi, j'ai une bonne raison de ne pas donner 1 million.
Pourquoi?
Parce que tu l'empêches, tu le prives de sa pauvreté. Et lui, il a besoin d'être pauvre pour venir tous les jours te demander.
Non, mais non.
Non,
il n'a pas le droit. De quel droit? Tu l'empêches?
Non,
il y a une autre interprétation. On peut considérer que si je lui donne par exemple 1 million, il va se complaire dans cette situation, il fera rien de son côté pour essayer de s'en sortir. Donc je lui
lui feront pas service. Ouais, il faut pas lui donner
service.
Un million.
Donc je l'ai pas rendu service.
Ah, bien sûr, très bien. Il faut lui donner.
Faut pas
lui...
Non, que tu dis,
il faut donner
que
tu lui primes de quelque chose.
Mais dans ce que
tu Michel,
à quel âge bon rouge.
Ça veut dire. Ça veut dire. Il faut réfléchir avec le cœur et la raison.
Alors,
la nature.
Ce que, veut, ce que veut expliquer, c'est oui.
À cache bois roule dans de l'oxygène tous les jours. Il ne peut pas oui. réduire l'oxygène.
Oui, mais
c'est un besoin.
Moi, je ne vois pas Dieu dans l'oxygène.
Et pourtant, il me donne tous les jours.
Mais moi, je ne le vois pas.
Là, il n'y a pas de limite.
Alors, la Mora Zaken te dit la chose suivante. Il te dit, toi, tu crois que Dieu se contracte parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'il est obligé de se contracter. En vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il ne se contracte pas, c'est de la méchanceté. Trop donner, c'est méchant.
Parce qu'il va me faire du mal.
Trop donner, c'est méchant.
Ben, c'est ça. C'est ça, bien sûr. C'est
contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que quand tu donnes trop à une personne qui n'est pas en état de le recevoir ce que tu as donné, ou bien que ça va l'empêcher de d'être productif, tu l'empêches de travailler. Imaginez par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais donner un exemple. Écoute l'exemple. Moi, je vais répondre à cette question.
C'est vrai, je comprends très bien parce que une personne, tu es donné 100 euros. Alors, on ne va pas parler de millions, comme vous l'avez dit. 100 euros, un pauvre 100 euros. Après, il reçoit un euro le lendemain. Il est moins content, tu vois. C'est pas de son niveau, le pauvre.
Le pauvre.
Non, mais c'est vrai. 100 euros, c'est magnifique, mais
il va l'habituer. L'habituer.
Il sera plus heureux, tu vois.
Non. La question est de savoir. Est-ce que c'est bien de lui donner 100 euros?
Voilà, c'est ça.
C'est ça la question. Voilà.
C'est ça la question.
Je vais donner un autre exemple. On peut donner plein d'exemples. Il y a plein d'exemples qui passent par l'esprit.
C'est comme une personne qui a pas de voiture. Tu lui prêtes ta voiture et tu lui enlèves après.
Imaginez votre fils, il vous raconte. Votre fils, il vous raconte, il est parti travailler. Il a fait un boulot de jeune. Il a gagné 100 euros en une semaine. Il vient vous voir et dit, papa, regarde, j'ai gagné 100 euros. Tout content. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors un billet de 500 de ta poche, je lui dis, tiens, mon fils, prends 500 euros.
C'est pas bien.
Tu viens de le détruire. Qu'est-ce que tu viens de nous montrer? Tu viens de nous montrer les 100 euros que tu as gagné, t'as pas besoin de t'aider. Ça sert à rien. Maintenant, pourtant, tu lui as donné 500 euros. C'est une grosse somme. Mais les 500 euros que tu lui as donné, tu l'as détruit. Il est venu te dire, voilà, papa, j'ai gagné 100 euros. Il est heureux de ces 100 euros. Il les a gagnés.
Il est fier.
Tu le détruis. Tu lui dis, tiens, mais prends 500 euros. C'est du style. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à rien, tes 100 euros. Tu viens de le détruire. Pourtant, tu lui as donné quelque chose. C'est pas à chaque fois qu'on donne quelque chose à quelqu'un qu'on lui rend service.
Ah oui, dans ce cas, oui.
Moi, je connais quelqu'un qui était très riche.
Ben, c'est exactement.
Il lâchait pas son argent comme ça auprès de ses enfants.
Bon, après. Non, quand on mène à la radinerie aussi, après. Non, je parle pas de lui.
Laissez-moi le goût de ce que j'ai.
Quand même.
Je connaissais. Pourquoi il n'était pas à ce point-là? Parce qu'il voulait qu'il.
Après la difficulté.
Et ils se sont défoncés dans ce qu'ils ont fait, et comme ça, ils ont réussi.
Mais c'est comme un père qui va dire à son fils, pourquoi tu te casses la tête à l'école? Moi, j'ai un commun, je vais te laisser monter.
Exactement.
C'est pareil.
Tu ne lui rends pas service.
Mais sûr que non.
Du tout.
Mais sûr que non.
C'est ce que dit l'Ad Morazaken. C'est pas seulement une gvoura, c'est pas seulement une rigueur qui nuance le chesed. C'est la gvoura qui est dans le chesed. Ça fait partie du chesed. Ça veut dire qu'un chesed bien composé doit avoir en lui de la gvoura. Sinon, c'est pas du chesed.
Le cœur et la raison.
Sinon, c'est pas du chesed.
C'est comme ça.
Ok? On va aller plus loin. On voit un peu où l'Ad Morazaken veut nous amener. Il veut nous expliquer à quel point on doit être heureux d'avoir une conduite naturelle dans ce monde. On doit être heureux du fait que Dieu se cache dans la nature. Parce que lorsque Dieu se cache dans la nature, c'est ce qui fait en sorte qu'on est là. C'est ce qui fait en sorte qu'on ne brûle pas. Et c'est le plus grand recette qu'Hachem a pu nous faire. Le plus grand recette qu'Hachem peut nous faire, c'est qu'il se cache.
Mais en même temps, si on brûle, le projet de la Torah ne marche pas.
Oui, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La Mora Zaken ici veut nous pousser beaucoup plus loin que jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on n'arrêtait pas de dire Dieu, il appelle le choix, il est obligé de se contracter, sinon tu brûles. On a l'impression que c'est comme un chargeur, tu vois. Ça veut dire que j'ai du 220 volts. On dit, écoute, ton téléphone, il prend du 5 volts. On n'a pas le choix. Il faut convertir, sinon tu vas brûler. Mais là, le Morazaken, il pousse plus loin. Il dit, c'est pas seulement par contrainte que Dieu se contracte. C'est que dès le départ, dans le chesed, un chesed bien composé doit forcément avoir en lui une composante de gvoura. Sinon, c'est pas du chesed. Sinon, c'est un chesed égoïste. Attendez, monsieur Benita, on va avancer. Veine, deux secondes. Veine. Mais il calelut amidot zobezo, nire la haïn, nire la haïn, des ouves et garmouichat, chemi tout
à fait partie de l'avancement. Hein,
d'accord, bien sûr. Ouais. Maintenant, si on a bien compris ce qu'on vient d'expliquer, on est en train de nous expliquer ici la notion de calelut amidot. Comment les attributs d'Hachem, et les deux attributs principaux sont la bonté et la rigueur, sont inclus l'un dans l'autre, sont complémentaires. inclut, c'est même plus que complémentaire, inclut l'un dans l'autre. Ça veut dire que une bonne gvoura doit être composée de chesed et un bon chesed doit être composé de gvoura. J'explique. Une bonne bonté doit être composée de rigueur pour limiter et structurer cette bonté. Et une bonne rigueur doit être composée également de bonté. Parce que sinon, c'est de la méchanceté. Si tu es rigoureux, stam, parce que tu es rigoureux, c'est de la méchanceté. Une bonne rigueur doit obligatoirement être composée de bonté qui me permet de dire pourquoi je suis rigoureux. C'est pour parler bien pour l'autre. Ce qu'on appelle dans le cas de la Kabbalah, itkelelut amidot zobezo. On pourrait amener plein d'exemples sur ça. Je vais vous donner deux exemples. Pour illustrer cette idée de Itkalelut et Midot, comment les Midot sont, doivent obligatoirement être incluses les unes dans les autres.
Elles sont complémentaires.
D'accord ? C'est plus que complémentaire, incluses les unes dans les autres, Itkalelut. Imaginez un père, on a donné souvent cet exemple, mais là on va le comprendre beaucoup mieux dans le contexte. Imaginez un père qui voit son fils en train de jouer avec un couteau. Ok ? Qu'est-ce qu'il va faire le père ? Il va lui retirer le couteau.
D'accord ? Fils, il va pleurer.
Maintenant, le fils il veut pas lâcher le couteau. Alors qu'est-ce qu'il va faire le père ? Il va lever la voix. Ça n'a pas marché. D'accord ? Le fils, il a un couteau dans la main. Le couteau est pointu, le couteau est aiguisé. Qu'est-ce qu'il va faire le père ? Il n'a pas le choix. Il va devoir même, s'il faut, il faut enlever le couteau. Donc c'est un acte de rigueur. C'est un acte de rigueur. L'acte est un acte de rigueur. Mais c'est un acte de rigueur qui exprime une bonté. Ça s'appelle une Gevura Shebechesed. C'est une rigueur
dans la bonté.
De la bonté. C'est-à-dire qu'en vérité, le moteur principal chez le père, c'est quoi ? C'est de la bonté.
C'est la bonté, ouais.
Il a envie de le bien de son fils. Seulement, le fils ne va pas avoir de la bonté. Le fils va voir papa qui m'a tapé sur la main. Mais c'est ce qu'on appelle Gevura Shebechesed. C'est de la rigueur qui vient de la bonté. Une rigueur qui provient de la bonté. Ok, maintenant on va aller dans l'autre sens. Imaginez, d'un autre côté, le père qui voit son fils en train de jouer avec un couteau et qui le laisse jouer avec le couteau. Il dit, moi je suis gentil, je te laisse jouer avec le couteau. Ça exprime quoi ça d'après vous ?
Méchanceté.
Attendez. Extérieurement, ça a l'air de quoi ça ?
Méchanceté.
C'est un père sympa, il est cool. Il dit, vas-y mon fils, pique-toi, viens, je te rajoute un peu de dose. D'accord ? Donc officiellement, le père il est gentil, c'est un père cool ça. C'est un père chesed.
C'est un fou.
C'est un père. Non mais. Oui. Comment le fils ressent ça ?
Ah oui, le fils. Non,
le fils il dit, ah j'ai un père qui est cool. Mon père il est cool, il est gentil. Mais en vérité, derrière cette coolness, hein, comme disent les Américains, derrière cette bonté, se cache en vérité une méchanceté. C'est-à-dire qu'il faut se méfier des apparences. Des fois, tu peux faire un acte qui a une apparence d'un acte rigoureux ou méchant, alors qu'en vérité, ça exprime une bonté profonde. Et des fois, tu peux faire un acte qui exprime une bonté apparente, alors qu'en vérité, c'est un acte méchant. Un acte inconscient et méchant. Ouais. Et c'est ce que te dit l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken te dit, il faut bien comprendre qu'une mida bien composée doit obligatoirement être incluse de la mida inverse. Parce qu'une mida qui va que dans un sens, elle ne peut pas être productive. À un moment ou un autre, ça va péter, c'est sûr. Si tu as que de la bonté, ça ne peut pas tenir. Même si tu es très gentil, ça ne peut pas tenir. Tu as que de la rigueur, ça ne peut pas tenir. Parce que de la rigueur, ça devient à la fin de la méchanceté. Et que de la bonté, ça devient aussi à la fin contre-productif, tu détruis la personne. Tu es obligé d'inclure les midotes l'une dans l'autre. D'inclure la bonté dans la rigueur et la rigueur dans la bonté. Quitte même à avoir un résultat qui ne représente pas ce qui se passe au fond de toi. Comme le couteau. C'est-à-dire, tu vois un enfant jouer avec le couteau, l'acte que tu vas faire, taper sur la main, ne représente pas ce que tu penses au fond. C'est pas grave. Parce que les midotes sont incluses les unes dans les autres. C'est pas grave. J'ai aucun problème avec ça.
Tout ça représente les événements de la vie ou non ?
Ça représente les événements de la vie, ça représente même Akadosh Baruch Hu. Même Akadosh Baruch Hu, la façon qu'on a construit son monde, c'est très très fort ce qu'on est en train de nous dire. Des fois, tu vois des choses qui se passent dans le monde. Et t'as l'impression qu'Hachem est méchant. Je suis pas l'avocat du bon Dieu. D'accord? Il faut comprendre que derrière ce que tu as l'impression qui est dur, qui est rigoureux, derrière cette rigueur, se cache une bonté, et en vérité, c'est une grande bonté.
Le mot, c'est qu'il fallait que ça arrive. Pour canaliser.
Il fallait que ça arrive pour ton bien.
Voilà, c'est ça, mais c'est pour ça que j'ai dit ça.
Pour ton bien.
C'est dur. Hein.
Des fois, c'est très dur.
Des fois, c'est insupportable.
Bien sûr.
Mieux que la personne. Parce que. La personne s'est arrêtée là-bas par la police. Parce que deux minutes avant, il allait brûler.
Mais des fois, c'est très dur. Parce que. On a tellement plus de facilité à dire.
Alors lui, il va râler et tout. Mais là-bas, tu risquais de.
On a tellement plus de facilité à dire. Ah, si ça m'est arrivé, c'est parce que j'ai fait une avéra. C'est parce que j'ai fait une bêtise. On a tellement plus de facilité de réfléchir petit. De dire. J'ai reçu une claque. Et je l'ai mérité.
Donc, dans la Shoah, il y a des précèdes alors.
Bien sûr. Je ne suis pas en état d'expliquer, mais c'est sûr qu'il y a du chesed. C'est tellement plus facile de dire, c'est réfléchir petit ça, de dire ah, j'ai reçu une claque et je l'ai méritée. Qui te dit que tu l'as méritée la claque? Et qui te dit que la claque que tu as reçue est une claque? Qui te dit que la claque que tu as reçue n'était pas un baiser? Est-ce que parce que tu crois que la claque est une claque, c'est une claque? Est-ce que parce que l'enfant pensait que son père le donnait un coup, ça veut dire que son père est en train de le frapper? Son père est en train de le sauver.
Ah oui.
Son père est en train de lui montrer qu'il aimait. Ça, lui, l'enfant, il n'a pas compris. Alors, est-ce que parce que l'enfant n'a pas compris, ça veut dire que c'est pas ce qui est en train de se passer? C'est ce qui est en train de se passer.
Quand ça arrive à un adulte, il comprend.
Alors, bien sûr, on aimerait le top, c'est quoi? C'est lorsque c'est une bonté d'Hachem qui s'exprime comme une bonté et qui est reçue comme une, qui est perçue comme une bonté. C'est le top. Ouais. Mais c'est pas parce que c'est pas toujours le cas que tu dois dire, ouais. Des fois j'ai un bon Dieu, des fois j'ai un Dieu qui est méchant. C'est encore plus fort que ce qu'on avait expliqué dans le cours précédent qu'on a fait il y a trois semaines. Non seulement que Dieu doit se contracter pour mon bien pour pas que j'explose, mais la contraction elle-même est une bonté. Et dans chaque bonté, tu dois avoir de la rigueur, et dans chaque rigueur, tu dois avoir de la bonté. Dans Hachem, il doit avoir Elohim, et dans Elohim, il doit avoir Hachem. Oui.
Comment on fait pour avoir cette vue astronomique? Parce qu'on fera pour pouvoir voir. Une vue aussi astronomique que ça, c'est-à-dire de prendre un tel recul pour pouvoir voir que c'était pas en réalité une gifle ou un coup de poing que tu as reçu, mais c'était un baiser, il faut avoir un sacré recul. Comment on fait pour l'avoir, ce sacré recul?
Je ne suis pas en train de dire que je vais comprendre tout ce que Hachem fait.
Non, je sais pas.
C'est ce qu'il va expliquer tout de suite, il va amener Rabbi Shimon Bar Yochai là. Wow. Je ne suis pas en train de dire que je comprends, mais déjà, le fait même de comprendre que dans les midot d'Akadosh Baruch Hu, il doit forcément avoir de la bonté qui est mélangée dans la rigueur, wow, et que chacun est inclus l'un dans l'autre, ça m'aide à comprendre les choses. Je ne dis pas à les saisir. Les saisir, je ne peux pas les saisir, je ne suis pas Hachem. Mais au moins, ça m'aide à comprendre.
Oui, mais enfin, s'il me donne ça et je me révolte contre ça, c'est pas bien non plus. Il me donne de la rigueur et je me révolte contre cette rigueur, mais donc indirectement, je me révolte contre lui.
Mais c'est les enfants qui se révoltent.
Un adulte ne se révolte pas. Aussi, il arrive une catastrophe à un adulte, alors. Je me révolte. Pourquoi?
On peut comprendre.
Ok, monsieur Benita.
Et puis, et quel est,
je vais vous pousser dans vos retranchements. Imaginez un père qui va donner un coup à son fils et le fils a 2 ans. Le fils, il va s'énerver, il n'est pas content, pourquoi tu m'as frappé? Maintenant, imaginez maintenant que vous avez 40 ans et votre père, il a, je sais pas, 70 ans et qui vous donne un coup sur la main. Est-ce que le coup, vous allez le voir de la même façon?
Sûr que non.
Même si vous ne le comprenez pas, comme entre-temps vous êtes devenu adulte, vous dites, bon, il y a un truc, il y a un truc. Peut-être qu'il y avait une mouche qui était là ou je sais pas ce qu'il y avait, il y a un truc. Maintenant, ça veut pas dire que j'ai compris pourquoi il m'a mis le coup, et peut-être que je comprendrai pas, mais je suis en état de comprendre que s'il m'a donné un coup, c'est qu'il y avait quelque chose.
Pas la raison.
Ce que je n'étais pas capable à 2 ans. À 2 ans, ouais. Ni je comprends que c'est pour mon bien, et ni je comprends que ça peut être pour mon bien. J'ai rien compris.
Très bien.
Quand je grandis, je comprends que ça doit être certainement pour mon bien, même si je ne comprends pas comment et pourquoi. C'est là où vous nous amenez l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken, tu dois comprendre qu'il n'existe pas de bonté qui n'est pas inclus dans la, qui n'est pas composée avec la rigueur. Il n'existe pas de rigueur qui n'est pas composée avec la bonté.
Enfin, ce qui manque là-dedans, c'est qu'il ne donne pas la dose. À partir de quand c'est la bonté, à partir de quand c'est la rigueur, comment mesurer pour donner combien de doses et combien de rigueur et combien de bonté? Comment mesurer? Comment?
Je sais.
J'ai un monsieur qui a.
C'est pas quantifiable.
C'est le piège qu'on a expliqué. C'est que ce que je crois être de la bonté n'est pas forcément de la bonté. Et ce que je crois être de la rigueur n'est pas forcément de la rigueur.
Mais je n'ai pas de mesure.
Le père qui est en train de se piquer avec son fils, alors qu'il laisse son fils se piquer, c'est de la méchanceté. Alors que le fils, pourtant, il se dit, moi j'ai un père qui est cool. D'un autre côté, le père qui va gronder son fils, c'est de la bonté. Même si le fils ne le voit pas comme ça.
Sauf qu'à 40 ans, il a peut-être un cumul de bêtises.
Oui, mais il a une maturité qui lui permet de comprendre que certainement c'est pour son bien. Et je pense que c'est oui. Ça où vous nous amenez le Tanya, ça où vous nous amenez le Mourazakin, c'est ça où vous nous amenez la Torah. La Torah te dit, je ne sais pas si tu comprendras toujours le chemin d'Akadosh Baruch Hu, mais au moins tu dois arriver à une maturité d'esprit de comprendre que derrière les événements que tu ne comprends pas se cache un bon Dieu qui veut ton bien. Si on a compris ça à la fin du cours, c'est déjà pas mal.
Bon.
Arriver à cette maturité. Mais vraie maturité, pas Stam le dire comme un perroquet, dire tout est pour le bien. Comprendre ça. Si on arrive à comprendre ça à la fin de Shahru de Amuna, c'est déjà pas mal. Il y a quelque chose qui a bougé dans notre, il y a un switch dans notre tête. J'ai compris, j'ai atteint une maturité d'esprit de comprendre que ce que Hachem envoie, c'est pour mon bien. Ça n'empêche que je demande à Hachem, je veux que du bien dévoilé. Ça n'empêche pas. Mais je comprends que lorsqu'Hachem envoie du bien, ce bien peut être présenté comme du bien, ou il peut être présenté comme ce qui n'est pas du bien. Et ça n'empêche que c'est du bien. C'est pas une contradiction. Du tout. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, itkelelut amidot. Les midot sont incluses les unes dans les autres. Maintenant, la vérité, c'est que c'est très complexe comme sujet. Et je vous disais que Rabbi Shimon Bar Yochai en parle dans le Zohar, et pas dans n'importe quel endroit. Il y a une partie du Zohar qu'on appelle, c'est une partie du Zohar qui vient de Eliyahu Hanavi, Ma'amar Eliyahu. Patach Eliyahu Ve'amar. Vous connaissez le livre Patach Eliyahu? Non. Pourquoi il l'appelait Patach Eliyahu? Parce qu'en fait, au début du livre, là-bas, ils ont ramené un texte du Zohar. Un long texte du Zohar, que certains lisent tous les matins. Et le texte commence par Patach Eliyahu Ve'amar. Eliyahu a commencé et il a dit. C'est qui Eliyahu? C'est Eliyahu Hanavi. Alors, regardez ce qu'Eliyahu Hanavi a dit. D'accord? Eliyahu Hanavi a commencé à parler, il a dit la chose suivante. Il a dit, Ant Uchad, je vous fais un petit peu ce que je me rappelle à l'esprit, parce que là, on va arriver aussi à une des phrases de ce Patach Eliyahu. Ant Uchad, Velo Vechushban. Toi, Hachem, tu es un, mais tu n'es pas un qui peut être compté. Parce que, normalement, quand tu dis un,
il y en a qu'un.
Quand tu dis un, ça veut dire qu'il y a un, il aurait pu y avoir deux, il aurait pu y avoir trois. Donc, par exemple, imaginez, je dis, il y a un livre. Bah, si je dis il y en a un, c'est qu'il peut en avoir un deuxième. Et même si je dis que ce livre est, est un livre unique sur Terre et qu'il n'y a pas un deuxième, mais le fait même d'avoir dit un, ça veut dire que je l'ai défini. Je dis qu'il y en a un, il aurait pu avoir un deuxième. Il peut avoir un deuxième. Dis-le au Navi, un ouhad vela bechushban. Toi, Hachem, tu es un, mais tu ne peux pas être compté. Donc déjà, il veut te montrer que on donne des noms à Hachem, des définitions à Hachem qu'on ne peut pas comprendre. On dit Hachem echad. Hachem est un. C'est-à-dire quoi? Il est un. C'est-à-dire qu'il est, ça veut dire, oui, mais même unique. Parce que si tu dis unique, c'est-à-dire que tu es capable de comprendre qu'il aurait pu avoir un autre et qu'il n'y a pas un autre. Et Léon Navi, il dit non. Mais là, Verhushban, on peut même pas compter.
Pas quantifiable.
On peut pas compter. Il rentre pas dans les définitions dans les faits de compter. Il y a un ou il y a deux ou il y a trois. On peut pas compter. Après, il continue. Il a balayé Léon Navi. Un tourat, vela Verhushban. Il dit aussi, Akadosh Baruchou, Iou Vegarmoï Chad. Toi et tes midot, c'est une seule chose. Alors ça, c'est très compliqué, ça. Parce que chez nous, les êtres humains, qui sont des êtres créés, il y a moi et il y a mon trait de caractère. Et mon trait de caractère ne me définit pas forcément. Il y a moi et il y a mon trait de caractère. C'est-à-dire que je peux, par exemple, me lever le matin et être dans un certain état d'esprit. Et après, le soir, être dans un autre état d'esprit. Alors si tu poses la question chez lui, mais attends, je comprends pas, qui es-tu, toi? Est-ce que tu es celui qui est du matin ou celui qui est du soir? Qu'est-ce que je vais te répondre? Je vais te dire, moi, je suis ni l'un ni l'autre. Il y a moi et il y a mes midot. Il y a moi et il y a mon expression. Maintenant, moi et mon expression, c'est deux choses différentes. On avait parlé de ça. Mais chez Akadosh Baruch Hu, Iyou Vegarmo Ichad. Lui et ses midot, c'est la même chose. Maintenant, il continue. Il dit, donc, ça complique un peu les choses qu'on est en train de dire ici. Parce que, après, je vous explique pourquoi ça complique. Parce que, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure avec le couteau, ok. Au fond de moi, j'ai un moteur qui veut le bien de mon fils. Ok. Maintenant, ça va s'exprimer peut-être par de la rigueur. Comme mon fils joue avec un couteau, je vais devoir le frapper sur la main. Mais ce que j'ai au fond de moi, mon moteur qui veut du bien et la main qui a frappé, c'est deux éléments différents. C'est pour ça que ça ne me dérange pas que, au fond de moi, je veux le bien et que ça s'est exprimé par de la rigueur. Parce que c'est deux éléments distincts. Ce que j'ai au fond de moi, c'est un moteur qui est invisible. Et l'expression, ben, comme c'est une expression qui est distincte de mon essence, donc je peux comprendre que cette expression ne correspond pas forcément à ce qui se passe au fond de moi. Vous me suivez? Je répète encore une fois. Je ne peux pas faire le bill, là. Pourquoi je ne suis pas dérangé par le fait que, chez l'être humain, l'expression de son geste peut être en discordance, d'accord, avec ce qui se passe au fond de lui. Parce que ma main et moi, c'est deux choses différentes. Ce que j'ai au fond de moi, c'est un trait de caractère, c'est un sentiment au fond de moi. Maintenant, ma main peut avoir une autre forme. Donc, ma main, concrètement, elle prend la forme de quelqu'un qui va frapper, mais au fond de moi, c'est du chesed. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus complexe. Parce que tu me dis que son expression et lui-même, c'est la même chose. Alors, comment tu peux expliquer qu'Hachem peut être en même temps bon et en même temps rigoureux? Dans la main, c'était facile. Au fond de moi, j'ai un moteur qui veut du bien. Mais concrètement, dans l'expression que ça a pris, qui est un élément distinct, cette expression était différente. Ça ne me dérange pas. C'est deux éléments distincts. Il y a ma main et il y a moi. Mais si tu me dis que chez Akadosh Baruch Hu, lui et son expression, c'est la même chose. Comment tu peux comprendre que Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire du bien qui est en même temps de la rigueur? C'est pas du bien qui a pris une forme de rigueur. C'est du bien qui est de la rigueur et de la rigueur qui est du bien en même temps. Ça, Eliyahu Hanavi, quand il en a parlé, il a dit clairement, il a dit, c'est des choses que l'être humain ne peut pas comprendre. Ça, ce que je viens de vous dire. Comment tu peux comprendre qu'Hachem est un et qu'on peut pas le quantifier, qu'on peut pas le compter? Le cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre. Comment tu peux comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est gentil et, donc, gentil et méchant?
Et bon.
D'accord? Il est bon et rigoureux en même temps. dans le même acte. C'est compliqué, ça, tu peux pas comprendre ça. Parce que nous, les êtres humains, on a l'habitude de tout scinder. De dire, bon, la main, elle a frappé, mais au fond, il y avait un moteur qui voulait le bien. Très bien, donc il y a le cœur et il y a la main, c'est deux choses différentes. Mais là, chez Kadosh Baruch Hu, tu peux pas scinder. Parce qu'il est chad, il est un. Donc le seul geste, il est en même temps chesed, en même temps que voura. Te dis, c'est de ça qu'Eliyahu Navi a parlé dans le Zohar.
Mais l'homme aussi, il est
c'est un. De ça qu'Eliyahu Navi a parlé dans le Zohar, quand il a dit que c'est quelque chose qu'on peut pas comprendre. Il dit que ça, c'est quelque chose qui a que Hachem qui est comme ça. Aucun tzaddik peut être comme ça. On peut pas. C'est-à-dire que chez les êtres humains, chez toutes les créatures, si t'as deux approches différentes, c'est que forcément il y a une composition. Une composition de deux éléments, c'est une composition. Un qui tire là, un qui tire là. Mais comment tu peux expliquer que le même élément peut être en même temps bon, en même temps rigoureux? L'être humain est incapable de comprendre ça. Mais c'est la réalité. On doit savoir que c'est la réalité. Ça veut dire que le seul détail qui change, si vous voulez, c'est que chez l'être humain, pour que cette situation s'opère, il faut qu'il y ait deux éléments distincts qui se complètent. Chez Akadosh Baruch Hu, ce ne sont pas deux éléments distincts, c'est un seul élément.
Alors, comment il fait?
C'est le seul détail qu'il faut rajouter ici, que chez Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose qui est en même temps la montée, en même temps la rigueur.
Comme le soleil.
Alors, puisque c'est la même chose.
Non, c'est pas comme le soleil.
Le soleil peut être bon et mauvais en même temps.
Ah oui, non, c'est pas comme le soleil. Parce que dans le soleil, il y avait le soleil et le bouclier. Et le soleil et le bouclier, c'est pas la même chose.
Non, mais le soleil par lui-même, il peut être bon.
Oui, j'ai compris. Mais dans le soleil,
pour la nature, pour les plantes, c'est pour, mais si je mets
dans le soleil, le soleil, c'est le soleil, le bouclier, c'est le bouclier. Alors c'est vrai que c'est un ensemble qui s'appelle le soleil, mais dans cet ensemble, il y a un accélérateur et un frein. Il y a deux choses différentes qui se complètent, mais qui sont deux choses différentes. Chez Akadosh Baruch Hu, Dieu c'est l'accélérateur et c'est le frein en même temps. L'être humain est incapable de comprendre
alors
ça.
Alors comment il peut diviser? Et puisqu'il est la même chose, comment des fois il peut envoyer la rigueur?
Je ne suis pas Dieu.
Non, mais d'après le texte, si j'interroge le texte,
comment le texte peut me dire ça? On t'explique la réalité, mais tu ne peux pas comprendre, parce que le cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre.
Enfin, il me dit, il est tout seul, et quand je dis comment tu fais pour envoyer des fois la rigueur et des fois la bonté, tu ne peux pas. Il ne peut pas.
Toi, tu ne peux pas.
S'il me dit que l'homme il a la main et le cœur ils sont séparés.
Oui. Lui, non, il n'est pas séparé, Hachem.
Lui, c'est il forme un tout. Alors, étant donné qu'il forme un tout, comment il arrive à séparer l'un de l'autre puisque le tout est un seul bloc.
C'est Hachem. C'est ce qui explique ici, c'est Hachem. On va aller dans les mots, si vous voulez, parce que là, on va rester dans les mots, le fameux texte de Eliyahu Navi dans le Zohar. Veine.
Difficile, hein, quand même.
Ah, c'est très difficile. Non, je vous cache pas, c'est un chapitre compliqué, un chapitre précis. Hein. Je m'attendais que vous allez tous dormir aujourd'hui, mais ça, vous êtes bien réveillés.
Non, on ne peut pas dormir. On est présent.
Il y a trop de rigueur là.
Veine. Mitkalelu tamidot zobezo. Ah, je vous cache pas, Shachar Jamuna, c'est. Non, ça va. Les chapitres suivants sont pas compliqués. Monsieur, le chapitre 6, il est costaud. Page 79. De l'inclusion des attributs l'un dans l'autre, la bonté qui est incluse dans la rigueur qui est incluse dans la bonté, Nirela Aïn, il apparaît clairement des Iou Vegarmo Ichad, que Dieu et ses réceptacles, ça veut dire que le Or et le Keli, Dieu et ses Midot, Dieu et son expression, Chad, c'est une seule chose, ne font qu'un, chez Amidotav. Étant donné que les attributs d'Hachem sont en adéquation et sont en unité parfaite avec lui, c'est pour cela ils s'unissent l'un à l'autre et sont inclus l'un dans l'autre. Ça veut dire que la bonté c'est de la rigueur et la rigueur c'est de la bonté. Il n'y a pas deux éléments distincts. Très fort ça. Comme Eliyahu Navi dit dans le Zohar, ce que je viens de vous dire, c'est toi Kadosh Baruch Hu qui les attache, les sphirot, ou meyachadlon, et qui les unit, ou barminach, let ichuda beilae. Et, à part toi, ça veut dire sans toi, il n'y a aucune unité dans l'attribut supérieur. En d'autres termes, ce qui veut dire par là, c'est que nous, les êtres humains, on est structurés, on a la bonté, la rigueur, l'harmonie, la victoire, l'humilité, chacun, c'est, tout est cloisonné comme ça, il y a des chambres pour chacun. Chez Akadosh Baruch Hu, tout ça c'est une seule chose, un seul élément. Mais c'est très difficile à comprendre, c'est même pas très difficile, on peut pas comprendre. Comment tu peux expliquer que quelqu'un il peut faire un acte qui est en même temps bon et en même temps positif, en même temps négatif, en même temps bon, en même temps gentil, en même temps méchant? On est incapable de comprendre ça parce que nous les êtres humains tout est structuré chez nous.
Je te donne.
Ah mais voilà, moi dans ma tête c'est clair. Quand je te donne, ma main elle fait ça. quand je te prends, ma main elle fait ça. Maintenant, je peux pas comprendre que je te fais ça et en même temps je te donne, en même temps je te prends. Je comprends pas, c'est pas possible. Je te donne ou je prends. C'est, ou l'un ou l'autre, c'est pas possible.
C'est sûr. Mais
alors, parce qu'on a un cerveau qui est cartésien.
Si c'est possible.
Je peux pas. 1 plus 1 est égal à 2. 1 plus 1 est égal pas à 0. C'est pas possible. C'est pas possible que 1 plus 1 c'est en même temps 2 et en même temps 0. C'est pas possible.
Mais c'est sûr que...
Je donne ou je prends. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là?
Alors, je donne et je prends. Quand on fait un échange, je donne et je prends.
Eh ben non, justement, ce que tu dis, le Morazakan, c'est que chez Akadosh Baruch Hu, c'est les deux en même temps.
Mais on comprend pas comment.
C'est la rigueur qui est de la bonté et la bonté qui est de la rigueur. Ça veut dire que tu peux pas scinder, tu peux pas dire, là, c'est le bon Dieu, et là, c'est le Dieu qui est méchant. Non. Il y a que de la bonté. Et même quand tu ne le vois pas, tu dois comprendre que ils sont inclus les uns dans les autres et que c'est la même chose. Pour Hachem, la bonté et la rigueur, c'est la même chose.
Excuse-moi.
Oui, vas-y.
On comprend pas comme un enfant qui comprend pas la rigueur de son père, c'est ça? Parce
non, là j'espère qu'on a un peu plus que l'enfant.
Depuis tout à l'heure
l'enfant, il comprend rien.
Ah, mais c'est de nature.
C'est-à-dire que l'enfant, il a vu que du mal. L'enfant, il a vu que du mal. Maintenant, quand cet enfant, comme j'ai dit tout à l'heure, quand cet enfant, il va grandir, il va comprendre que même s'il comprend pas, c'est pour son bien.
Ah, mais il va comprendre quoi? Il va comprendre que finalement, c'est l'éducation.
Oui, mais je comprends, mais il faut, il faut comprendre ça. Il faut accepter ça.
Le coup sur la
main.
Non, le monde. Il faut accepter ça. Il faut accepter que même si tu comprends pas, c'est pour ton bien.
Il oubliera jamais.
C'est maturité.
Quand tu prends la rigueur et quand tu prends même la bonté, dans chacun des deux, il y a le bon et le mauvais, le bon et le mauvais aussi.
Oui, très bien. Khazak, c'est un très bon point ce qu'il dit Michel. Vous entendez ce qu'il dit Michel? Il dit que quand tu prends, c'est un point très juste. Il dit que. Vous entendez la question de Michel?
S'il vous plaît.
Écoutez la réponse.
Il dit. Il était revenu à mariage 3 heures du matin, mais quand même il est là, il nous colle Tania et bah au crachet il y a la lumière.
Qu'est-ce qui se passe là, Michel?
Normal, il a dansé l'oriental toute la nuit.
Tu as été dansé là?
Il y a Habibi Yalla. Là.
Ah, t'étais un bon.
Il était parti là-bas.
Ah, t'étais. Où là-bas? Où?
Ah bon, monsieur, mais alors.
Simra.
Ne perdons pas le fil.
Écoutons.
Il y a une remarque très intéressante. Il dit, tu es en train de me dire que chez Akadosh Baruch Hu, tout est inclus l'un dans l'autre. Ça veut dire que de la même façon que dans la bonté et la rigueur, et la rigueur et la bonté, ça veut dire aussi que dans la bonté, il y a la bonté et la rigueur, et dans la rigueur, il y a la bonté et la rigueur.
Bien sûr.
Vous me suivez? Mm-hmm. Ça veut dire que c'est pas seulement que le 1, il y a 1 qui est 1 avec, un qui est 1 avec l'autre, d'accord? C'est que dans chaque élément, de façon distincte, il y a la bonté de la bonté et la rigueur de la bonté. Il y a la rigueur de la rigueur, et la bonté de la rigueur. Ça va dans les deux.
Il y a des exemples. Parce qu'il s'agit d'un seul élément. C'est obligé.
Oui.
Il distribue les deux en même temps, dans un sens ou dans l'autre.
Non, c'est un élément, c'est pour Hachem. Même si c'est pas par rapport à Kadosh Baruch Hu, même si c'est par rapport aux autres Midot, il y a toujours cette notion de Itkalelut. Itkalelut, c'est l'inclusion. C'est très important à comprendre ça. Ça veut dire, quand on est enfant, quand on est bébé, les choses sont très cartésiennes. Ça veut dire, je dis, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et après, plus tu grandis, et plus tu comprends que les choses sont complexes. Que dans un élément qui a l'air bien, il y a du bon et il y a du mauvais. Et dans un élément qui a l'air mauvais, il y a du mauvais et il y a du bon. Mais ça, il faut grandir pour ça, pour comprendre ça. Que la vie n'est pas blanc et noir. Ça marche pas comme ça. Plus tu avances et plus tu comprends cette notion de Itkalelut. Comment les éléments sont imbriqués les uns dans les autres. Sont inclus les uns les autres. Et qu'il faut apprendre à trier. Apprendre si ça je prends, ça je prends pas. Et que dans chaque élément, même un élément qui globalement est bon, il y a du mauvais. Même dans un élément qui est mauvais, il y a du bon.
Bien oui.
Pourquoi Hachem a créé le mal dans le monde?
Pour le différencier du bien.
Et est-ce que dans le bien il y a du mal?
Bien sûr.
C'est ce que vous. Pourquoi il a créé le mal?
Pourquoi?
Dans le mal il y a du bien.
Ben oui.
Pourquoi quand Machiav va venir le cochon sera autorisé?
On la répare.
Parce que dans le cochon il y a du bon. Tout est bon dans le cochon.
Les excréments de vache. Les excréments. C'est l'engrais pour la terre.
Rav Racha.
Et pourtant, ça fait que du bien à la terre.
Ouais.
Alors, pourquoi? En case d'avoir, ça n'existe pas les choses qui sont déterminées. Qui disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est très, très important qu'on parle dans l'éducation, dans le travail, dans tout ce qu'on fait dans la vie. Les gens, des fois, quand ils ont un esprit un peu trop simple, ils ont l'impression que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais on peut pas dire des choses comme ça. C'est-à-dire quoi, ça c'est bien, ça c'est pas bien? Dans ce que tu crois être bien, il y a quelque chose qui est pas bien aussi. Dans ce que tu crois ne pas être bien, il y a du bien aussi. Qui te calait l'autre? Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Quand tu as compris qu'il faut apprendre à filtrer dans chaque chose.
Et c'est la nature.
Et que l'un est imbriqué dans l'autre. Chez Hachem, c'est encore plus complexe. Parce que chez nous, les êtres humains, c'est des éléments composés. Chez Hachem, c'est pas composé. C'est un seul élément. Un seul.
C'est une grosse machine.
Et dans cet élément, t'as la montée de la rigueur maintenant. Et ça, c'est extraordinaire, ça. Bon. On n'est pas capable de comprendre ça. Mais au moins, on est capable de comprendre la notion de Itkalelut Amidot. Donc, revenons maintenant à notre histoire de la nature. Toi, quand tu vois Hachem qui est caché dans la nature, est-ce que le Hachem qui est caché dans la nature, c'est le même Hachem qui était avant? Bien sûr, c'est le même Hachem. Et est-ce que le Hachem qui s'exprime dans la nature, il est bon ou il est rigoureux?
Il est les deux à la fois.
Il est les deux à la fois. Exactement. Il est en même temps bon, en même temps rigoureux. Je dis, mais comment c'est possible? Ou il est bon, il est rigoureux. C'est ce qu'on met, c'est ça ce que tu dis, Léonavi. Et Léonavi, il te dit, celui qui n'est pas à Kadosh Barouh, il comprend pas. Lui, il est carré. Il dit, écoute, je comprends pas. Tu te caches ou tu te caches pas? Il faut me dire. Je veux pas comprendre, là. Tu te caches, pas, tu t'es caché, tu t'es pas caché, tu t'es pas caché. Comment tu peux te cacher et ne pas te cacher en même temps? Viens, il y a un avis dans le Zohar, il t'explique, il faut que tu comprennes la chose suivante. Que toi, tu crois qu'à Kadosh Barouh, il se cache. Mais en vérité, Hachem, il se cache pas. En même temps, il se cache, en même temps, il se cache pas. Alors tu dis, ah, j'ai compris. Alors il se cache pas.
Ça dépend pour qui.
Attendez. Tu vas me dire, alors j'ai compris, alors Hachem, il se cache pas. Je dis, non, il se cache vraiment. Le Tzimtzum, il est authentique. Hachem, il se cache vraiment. Ah, s'il se cache vraiment, il se cache vraiment. Je dis, non, mais pour lui, il se cache pas. Comment pour lui, il se cache pas? S'il se cache, c'est qu'il est caché. Comment tu peux te cacher, mais ne pas être caché? Comment c'est possible? Aïma, il a raison, Aïma. Fatigant. Comment tu me dis, qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi ces salades là? Tu me dis, je me cache, mais je suis pas caché. Je me cache, mais je suis pas caché.
C'est la contraction, le tzitzoum.
Mais c'est pas possible. C'est... Si je me... non,
même si c'est la contraction, je dois le voir.
Alors, ouais, dans ce cas-là, tu dis, je me cache, mais en vérité, tu crois que je me suis caché, mais je me suis pas caché. Je dis, non, je me dis, je me suis caché. Mais en vérité, je suis pas caché.
C'est une histoire à dormir debout. Quoi.
Non. Ouais, enfin, ouais. C'est-à-dire, il dit, non, dans ce, il dit une chose et son contraire. Alors comment...
C'est pas possible.
Concilier les deux.
Impossible. Comment?
Voilà.
Ta neshama, c'est ce qui te fait marcher.
Ma neshama, mais
elle est en toi, tu la vois pas, et pourtant elle est là. Si t'étais, s'il y avait pas, tu marcherais pas.
Un neshama, c'est une chose.
C'est la même chose, c'est l'essence chose, même de Dieu. Neshama, là, c'est l'étincelle.
Là, il te dit, tiens, la neshama, la rigueur et la bonté et ça, en même temps. Et
ça, c'est la clé de la réponse.
L'un dans l'autre.
La clé d'explication, c'est ce qu'on vient de dire. Si on avait dit qu'il y avait deux Hachem, il y a le Hachem, il y a le Elohim. Il y a le Hachem qui donne la lumière, il y a le Hachem qui freine. Ça aurait été beaucoup plus facile pour nous à comprendre. Ah ouais. Dis bon, il y a le Hachem qui donne, après il s'est contracté, nous on voit que, après il y a le deuxième qui vient mettre le frein, donc du coup c'est une autre dimension, c'est une autre composante, la composante du frein. Mais là il te dit, et là dans ce cas-là, effectivement, on aurait dit que Dieu se cache vraiment, et que quand il est en bas, il est caché. Nigmar, c'est fini. Mais là on te dit non. On te dit en vérité, c'est le même Hachem, celui qui se cache, et celui qui se montre, c'est le même. Et en même temps il se cache, et en même temps il se montre. Et toi, et le voile est un vrai voile, et en même temps il s'est pas caché. C'est sur ça qu'Eliyahu Navi il a dit, d'accord, là-bas, le mot qu'il emploie, il faut quand même revienne. Enfin, je vous le dis en français. Il dit, let marchavat fisabar klal. Voilà, quand Eliyahu Navi dit ça, la phrase suivante, il dit, aucune pensée ne peut te saisir du tout.
Pour rien comprendre.
Voilà.
Le plus bel exemple.
C'est après qu'Eliyahu Navi dit la phrase que je viens de lire là, il dit rouler, etc. C'est ça le etc. Après le etc., il rajoute, il dit, let marchavat fisabar klal. Aucune pensée ne peut te saisir du tout. Ah, c'est quoi saisir? Tu peux comprendre, mais pas saisir. Tu peux comprendre certaines choses, des bribes, parce qu'on est sinon, on est là. On fait un cours de Tania. Ça sert à rien, on perd notre temps, tu comprends rien de toute façon. Comprendre, tu peux comprendre.
Admettre, tu veux dire.
Tu peux avoir des bribes par-ci, par-là, mais saisir le sujet, comprendre parfaitement, tu peux pas. Elle est marchée, ça va.
Le plus bel exemple qu'on a, c'est la mère qui allait un enfant. Le lait, à la base.
Oui, mais ça, c'est quelque chose de composé.
Le sang.
Oui, mais ça, c'est quelque chose que je peux voir avec mes yeux.
Ça se transforme en lait.
Là, c'est beaucoup plus fort.
Quelle est la limite du lait, du blanc et du rouge?
Regardez. Imaginez que je vous dis, par exemple, que cette olive, elle existe et elle n'existe pas en même temps. Vous allez me dire, Mandy, va à Sainte-Anne. Mm-hmm. Il y a un problème.
Si tu la manges, là, si tu la manges, elle disparaît.
Je vais vous dire, Michel, cette olive, elle est là et elle n'est pas là en même temps.
Non, ou elle est là ou elle
n'est
pas là.
Alors, ou tu me dis que je crois qu'elle est là, oui, mais elle n'est pas là.
Ah, c'est
ou tu me dis qu'elle est là, mais je ne la vois pas.
Elle est là.
Mais tu ne peux pas me dire qu'elle n'est pas là et elle est là en même temps. C'est impossible.
Elle n'est pas là.
Voilà, c'est pas possible. Voilà. Oui. Même un magicien, il peut pas faire en sorte qu'elle est là et qu'elle n'est pas là en même temps. Il peut te faire croire qu'elle n'est pas là.
Oui.
Ou il peut te faire croire qu'elle est là. Mais il y a forcément un élément qui est une illusion. Il y a un qui est toujours, quand il y a une illusion, il y a un paramètre qui est vrai et un paramètre qui est une illusion. Et la force du magicien, c'est qu'il te fait croire, il fait croire autre chose que la réalité. Mais c'est pas possible que les deux éléments soient vrais et que tu as une chose et son contraire en même temps. Le lys ne peut pas être là et pas là en même temps. C'est pas possible. Dieu ne peut pas se cacher et ne pas se cacher en même temps. C'est pour ça qu'Elionavi, quand Elionavi présente ça, il dit, let marchavat isabarklal. Aucune pensée ne peut te saisir, mais c'est la réalité. Dieu se cache dans notre monde et en même temps il est là à 100%. C'est-à-dire celui qui croit Azav Hashem etar et Dieu a abandonné la terre, il se plante. Maintenant celui qui dit Dieu ne s'est jamais contracté, il se plante aussi. Alors quoi, il est là ou il est pas là? Il est là à 100%. Pour lui, il n'y a rien qui a changé. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi qu'il n'y a rien qui a changé? Mais il s'est caché. Toi, pour toi, tu as l'impression qu'il s'est caché, mais lui, il s'est pas caché. Alors, il s'est pas caché. Si, si, il s'est caché vraiment.
Mais il n'y a pas un moment où il a dit, bon, ben, vous m'embêtez trop, moi, je me retire et je vous laisse vivre votre vie,
etc. Il voulait faire un autre monde avec Moïse.
Je ne sais plus dans quel endroit il a dit ça. Donc il s'est caché à toujours, à jamais. Là.
Il a dit, vous ne me verrez plus.
Voilà, c'est ça.
Il a dit, vous ne me verrez plus.
Mais on ne l'a pas vu avant non plus. Hein.
Vous me verrez moins. Bien sûr qu'on l'a vu avant.
Non, on ne l'a pas vu non plus.
Bien sûr.
Moïse, il a vu. Il me dit, vous ne me verrez plus.
Vous y étiez
Adam Arishon.
Le texte, il l'aurait dit.
Mais bien sûr.
Il l'a vu. Qui a dit
Adam, il parle avec Hachem. Hachem, il lui dit, où es-tu, etc. Là, etc. Hachem, lui parle.
Oui, d'accord. Mais peut-être avec des voix comme ça. Comme il a fait avec Moshe Rabbeinu.
Comme ce minute, on s'éloigne.
Bon, ok.
On s'éloigne.
Charles.
Chut, taisez-vous.
Non,
je vous demande de vous taire.
Il n'y a rien à voir.
Bon, alors qu'est-ce qu'on a compris, Serge là?
Il est là, il n'est pas là.
On a compris qu'on n'a rien compris.
Non, ben, on a compris qu'il s'agit d'une seule et même personne qui est contractée, qui peut faire le bien là, et le mal en même temps. Et on ne peut pas.
Et là, on ne peut pas en fait.
Monsieur Benita,
oui, monsieur.
J'ai posé la question à Serge.
Ah, pardon, excusez-moi.
On a perdu Serge à un moment donné. On a perdu Serge.
Non, vous, je sais que vous avez compris.
Il est là, il n'est pas. Enfin, il est là. On ne voit pas. Moi,
il est là à 100%.
Oui, mais on ne voit pas.
Alors, mais la contraction est vraie à 100% aussi.
Là où il n'est pas là.
C'est impossible. Nous, notre cerveau n'est pas conçu pour comprendre ça. Je peux pas comprendre que t'es là et t'es pas là, que tu donnes et tu prends en même temps. C'est pas possible. Ou l'un ou l'autre.
Oui, parce qu'on.
C'est pas possible.
On peut pas comprendre. Parce qu'il nous dit une chose et son.
À la limite, ça me dérange pas que tu me dises que c'est un élément composé, qu'il y a une composante qui donne, une composante qui enlève. C'est composé. Mais on te dit, c'est pas composé, c'est un seul élément. Si c'est un seul élément, comment il peut donner un seul élément?
Pourtant, il veut qu'on cherche, qu'on comprenne quand même.
Bien sûr, mais c'est lui.
Il demande quelque chose.
C'est lui, Dieu, c'est pas moi.
Brave, brave. Tu dis qu'il y a certains scientifiques peuvent ne pas comprendre.
On aurait du bois de whisky.
Mais personne ne comprend.
Personne
ne comprend.
Si tu dis qu'il n'y a aucun homme qui peut comprendre,
personne. Non, ça veut dire. Parce qu'il faut chercher à comprendre.
Mais alors.
Pourquoi Elia ou Nami parle de ça alors qu'il te dit.
Moi, ma question, elle est comme ça. Ma question, elle est comme ça. Est-ce que Dieu est aussi présent dans le monde ici comme il l'était avant de créer ce monde?
On dit que
c'est ça ma question.
Il a résidé quand même.
Alors ça n'a rien changé, pourquoi je brûle pas?
Il a résidé sur.
S'il est toujours aussi présent, pourquoi je brûle pas?
Il avait son domicile.
Il dit qu'il s'est voilé, qu'il s'est contracté.
Non, il s'est pas contracté. Moi, pour moi, je perçois que.
Dans ma perception, il s'est contracté.
Alors, mais il s'est contracté ou pas? Est-ce que j'ai une illusion
là? Dans ma perception, à moi, il s'est
contracté. Non, lui, il s'est pas contracté.
Lui, il s'est pas contracté, mais pour ma perception.
Eh ben, te dit l'Admon Razakin, te dit à mon avis, c'est faux. Dieu, il s'est contracté à 100%. Et il se dévoile aussi à 100%.
Ben, c'est l'exemple du soleil et du bouclier. C'est ça.
Non, parce que dans le soleil et le bouclier, c'est deux éléments distincts. T'as un soleil qui envoie la lumière, t'as un bouclier qui bloque.
Et alors dans ce cas-là.
Mais là c'est autre chose, là.
D'accord.
Là, on te dit, le soleil, il a pleine puissance. Et il est aussi éteint à 100%.
Alors, étant donné que c'est
la nuit,
une seule et même personne, il y a le bien et le mal dedans, tout est mélangé dedans. Quand je fais ma tefila, on demande des brachot, etc. Comment il peut m'envoyer la bracha sans le mal? Pourquoi alors? Pourquoi là on demande que du bien dans la tefila? Alors comment je vais faire pour recevoir que le bien et pas le mal alors qu'il s'agit d'une seule et même personne, un seul élément, ils sont imbriqués l'un dans l'autre.
Monsieur Benita, c'est quoi le bien pour vous?
Ben, le bien c'est tout ce qui me fait du bien.
D'où vous savez qu'est-ce qui vous fait du bien et du
ben,
bien?
Parce que je le ressens.
Et d'où vous savez que ce que vous ressentez est vrai?
Donnez-moi un billet de 1000 et tu vas voir si j'en prends.
Non, mais tu peux gagner de l'argent. Mais tu peux gagner de l'argent en volant aussi.
Ça n'existe pas, il y a un billet de 1000.
Bah, je dis 1000.
Tu crois qu'une manque
de. Ça sera un faux.
Tu demandes la part d'un ça, tu fais la.
Il y a des billets de 1000 euros ou pas?
Il serait pas content.
Il y a le bien et le mal.
Vous voulez 1000, il va vous les donner, mais après il va vous demander 10 000 et vous ne serez pas content. Donc finalement, vous voyez, le bien, c'est pas
le bien. Ah non, il peut me demander 10 000, mais il n'est pas sûr de les recevoir.
Bon.
Ouais. Ah bon. Allons-y, qui n'a pas gagné, va gagner.
Est-ce qu'on l'a retenu?
Allons-y. Ouais, c'est compliqué. Bon, mais
pourtant,
c'est
bien. Résider Dieu.
Hachem est là.
C'est ça qui est
intéressant. Il faut poser des questions, il faut avancer. Non,
c'est intéressant.
Dieu a résidé parmi nous.
C'est plus, c'est
il avait sa résidence.
Donc, c'est dire que s'il résidait avant, c'est qu'il résout et il a toujours résidé.
La question qui nous dérange, en vérité, depuis tout Tania, c'est est-ce que Dieu est présent sur la Terre?
Il était là.
Est-ce que Dieu est présent à 100% sur la Terre?
Vous avez observé.
Approche, je ne vois pas.
C'est le seul cours où il y a autant d'animation. Alors que c'est très, très difficile. Et c'est là où...
Comment tu peux? Tu dis que...
Il s'est contracté réellement.
Réellement.
Mais contracté, ça veut dire que c'est changement d'état. On dit qu'il n'a pas changé.
Il n'a pas contracté, il s'est effacé. Complètement.
Non, mais c'est effacé pour ma perception, il ne s'est pas effacé lui.
Alors dans ce cas-là, il ne s'est pas effacé. Je te dis non. Il s'est effacé. Vraiment.
Et il est là en même temps.
Bereshit, Bara, Elohim. C'est la Torah qui te dit. Hachem s'est contracté. Et pourtant, il est là à 100%.
Ça veut dire qu'avant qu'il arrive Adam Arishon, il était vraiment omniprésent.
Ça veut dire qu'Hachem, avant qu'arrive Adam Arishon, il était omniprésent. Et après qu'arrive Adam Arishon, même si Adam Arishon ne le voit pas, il est toujours aussi omniprésent qu'avant. Ataou, Hachelo Nivra Olam, Ataou, Mishin Nivra Olam. Pour Hachem, il est le même avant la création du monde, après la création du monde. La même chose, il n'y a rien qui a changé. Je dis, mais s'il n'y a rien qui a changé, pourquoi moi je ne vois pas? Ah, parce que c'est moi le problème, il est chez moi. Non, j'ai mis le problème, il n'est pas chez toi. Je me suis contracté à 100%. Mais je suis là à 100%.
Aussi. Adam Arishon, il ne le voyait pas, il le entendait pas.
C'est impossible. Ce que je vous dis, c'est un sac de nœuds, c'est impossible. Je ne peux pas être là et pas là en même temps. Ou je suis là ou je ne suis pas là. Je suis là à 20%, à 30%. Je ne peux pas être absent à 100% et présent à 100%. C'est pas possible.
Dans la même seconde.
Dans la même seconde.
Tout est possible.
Dans le même élément. Pas composé, même élément. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on comprend ici une idée très puissante. On comprend d'ici que même lorsque Hachem se cache, en vérité, il est là à 100%. Même lorsque tu crois, même dans les événements dans ta vie qui t'arrivent, dans lesquels pour toi tu vois ça comme un voile d'Akadosh Baruch Hu, il faut que tu saches qu'Hachem est présent à 100% à ce moment-là.
Oui,
et qu'Hachem, il n'a aucun problème à être présent à 100% et absent à 100% en même temps. Béhémet.
Qu'il soit présent, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est que quand il donne des averos, des mauvaises choses et tout ça qui arrive, c'est ça qui me gêne. Mais qu'il soit présent, ça ne me gêne pas. Au contraire.
Mais monsieur.
S'il est présent.
Peut-être en même temps, oui.
Oui, mais je m'excuse. On vit une vie matérielle, nous,
oui.
Concernant vous et autres, oui. Mais elle est voilée, Hachem est voilée dans notre vie matérielle.
J'ai bien compris.
Malheureusement, on vit une grande. Il faut être conscient de ça.
Oui.
Notre vie matérielle, oui. elle voit la Kadosh Baruch Hu, vous voyez. Oui. Et demain, un homme qui est à l'étude, qui est souvent dans une avodat Hachem forte, il va voir plus Hachem que nous. Donc il faut comprendre qu'Hachem est présent,
oui.
On ne le voit pas.
Mais celui-là, là.
Je vais juste terminer avec ça.
Oui, oui.
Le peuple juif. Si Hashem Shalom, il n'y avait pas Kadosh Baruch Hu encore aujourd'hui, on serait plus là. Hachem, il nous protège aujourd'hui toutes les 5 minutes. Tout le monde veut nous tuer, tout le monde veut notre mort. Tout le monde. Nous, on le voit, moi j'habite en Israël, j'habite plus ici depuis 7 ans. Mais on voit qu'en Israël, c'est encore pire qu'ici. En Israël, c'est pire qu'ici. En Israël. Oui, les Arabes partout. Demain, l'Iran, ils ont reçu encore 6000. Ils ont reçu 4000 ou je ne sais pas, 400. Et ils disaient sur un reportage dernièrement qu'il y en avait 2600. En combien de temps dernièrement, en un an ou deux, le juif est protégé par Hachem. Nous, on est donc observé par une vie matérielle, le travail,
c'est ce qu'on nous dise.
Les choses de la vie.
Oui, mais
ça,
là,
ça nous empêche bon, de voir.
Là,
si vous voulez, on va juste, excusez-moi, parce que l'heure tourne, c'est déjà l'heure. On va juste résumer ce qu'on a étudié aujourd'hui en deux minutes, comme ça au moins on part pas avec l'idée fausse. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a expliqué dans le cours d'aujourd'hui? Résumons les quelques idées. D'accord? Dans le cours d'aujourd'hui, on s'est arrêté sur le nom de Elohim. C'est quoi Elohim? Elohim, c'est Akadosh Baruch Hu qui se contracte. Ok? On a expliqué que Elohim, c'est la même valeur numérique que Hateva, la nature. Teva, ça vient de la même racine que Toubeou, noyé. C'est-à-dire, c'est la même énergie divine et qui est noyée. Teva, c'est aussi la même racine que Matbera. C'est-à-dire la constance. La constance qui noie, qui fait en sorte que tu ne vois plus Akadosh Baruch Hu. Mais en vérité, le nom de Elohim n'est qu'un bouclier pour le nom de Yudke Vavke, pour le nom de Hachem, le soleil qui est en train d'éclairer. Seulement, là est arrivé le chidouche principal aujourd'hui. Le chidouche principal de l'Almora Zaken, c'est qu'il a expliqué, il dit, toi tu crois avant de commencer ce cours, qu'il y a la bonté d'Hachem, il y a la rigueur d'Hachem, et que ce sont deux éléments distincts. Mm-hmm. C'est le même Dieu, il n'y a pas de problème, mais qu'il y a la bonté et la rigueur. Morazaken nous a appris aujourd'hui dans le chidouche que tu dois comprendre que dans les midot, tu es dans tous les attributs chez les êtres humains et à plus fort chez Akadosh Baruch Hu, tu es obligé d'avoir ce qu'on appelle la itkalelut, l'inclusion. La bonté doit forcément être composée de rigueur aussi, et la rigueur doit forcément être composée de bonté aussi, sinon ça marche pas. On a expliqué ça longuement. La notion de itkalelut à midot. Et que de la même façon, quand tu vois Dieu qui se cache, qui se contracte pour créer ce monde, c'est de la rigueur qui exprime une bonté. Parce que la rigueur et la bonté sont imbriquées l'une dans l'autre, ce qu'on a expliqué longuement. Maintenant, la seule différence, c'est que chez l'être humain, quand tu as deux midotes qui sont imbriquées les unes dans les autres, la bonté et la rigueur, ou la rigueur avec la bonté, ça reste deux éléments distincts. C'est-à-dire que j'ai une certaine expression et j'ai un moteur à l'intérieur. C'est deux éléments distincts. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus fort. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de composante. Dieu n'est pas un être composé. Dieu est un élément. C'est Hachem. C'est lui, c'est tout. Et chez Hachem, la bonté et la rigueur sont en même temps. Et là, avec ça, on est arrivé à une idée très forte, à l'idée que toi, tu crois qu'il y a Hachem et il y a Elohim. En vérité, c'est la même chose. Parce que Hachem, où est Elohim? Hachem, c'est Elohim. Et Elohim, c'est Hachem. Le même Hachem qui se dévoile, c'est le même Hachem qui se cache. Et en même temps, il se dévoile, et en même temps, il se cache, et c'est le même élément. Comment c'est possible? Pour ça, on a amené le Zohar, dans lequel Yahounavi dit que ça, cet élément-là, le cerveau humain ne peut pas comprendre. Le cerveau humain peut comprendre ce que c'est de la bonté. Il peut comprendre ce que c'est de la rigueur. Il peut comprendre que la bonté et la rigueur se marient. Ça, il peut comprendre. Mais le cerveau humain ne peut pas comprendre comment le même élément peut être bonté et rigueur en même temps. Ça, le cerveau humain est incapable de comprendre. C'est le seul élément qui nous manque. Comment c'est possible que la bonté et la rigueur, sont la même chose chez Akadosh Baruch Hu? Mais ce qu'on comprend avec ça, c'est que Hachem et Elohim, ce n'est pas deux noms différents. Toi, tu crois que Hachem, c'est la bonté et Elohim, c'est la rigueur. Mais puisque Hachem est indissociable, parce que c'est un seul élément, donc Hachem et Elohim, c'est la même chose. Et là, avec ça, on va comprendre, mais ça, on verra la semaine prochaine. Va Hachem Hotel et va verra qui Hachem ou Elohim. Vous vous rappelez, c'est pas si longtemps que ça, Kippour. On a tous crié, scandé Hachem ou Elohim. Qui se raconte? Hachem, c'est Elohim. Hachem, c'est Elohim. Mais pourquoi tu répètes? Qui se raconte? Tout le monde sait qu'Hachem, c'est Elohim. Qui vrai, hein, qui pensait qu'Hachem, c'est pas Elohim. C'est évident. L'éternel est Dieu, Dieu est éternel. Qui se raconte? Tout le monde sait. Qu'est-ce qu'il nous apprend ici? C'est la direction qu'on va prendre aujourd'hui. Qu'il nous a montré ici. Qu'en vérité, Hachem ou Elohim veut te montrer ici que la bonté et la rigueur d'Hachem forment un seul élément. C'est un seul élément. Hachem ou Elohim. Il n'y a pas Hachem et Elohim. Hachem ou Elohim. Hachem c'est Elohim. Oh, mais ça, je vous en dis pas plus.
Alors, ça veut dire là qu'il me dit,
on verra.
Hachem, c'est la rigueur.
La rigueur, ça veut dire, là, si je devais le dire en français, ça aurait donné la bonté et de la rigueur, et la rigueur et de la bonté. Mais il faut qu'on développe un peu plus. Ça, c'est mon projet, si tu veux.
E-E-T, conjoncture.
Non. Pas E-T, E-S-T.
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 Égal, oui, c'est ça.
Ah, la bonté...
Ce qui est impossible. Dans le cerveau humain, on ne peut pas comprendre ça. Ah, oui. C'est ça ce que Léonavie a dit. Il avait dit composé, j'arrive à comprendre composé. Mais que ce soit le même élément, impossible. Et là, avec ça, il va répondre, ce prochain, à une question qu'on a posée depuis le début du Shacharit Emunah, dans le sixième chapitre, là. Au chapitre 1, il a posé une question, il dit, c'est quoi, Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem est notre Elohim. Bon, je comprends, c'est Hachem, qu'est-ce que tu m'as appris ici? L'éternel est notre Dieu, Dieu est notre Dieu, j'ai compris. On veut t'expliquer que cette symbiose qui est entre Hachem et Elohim, c'est le secret de la Emunah du peuple juif. Bon, mais ça, on va continuer à son prochain, si tu veux. Voilà. Ça va être là pour aujourd'hui.
Il y a du suspense.
Donc si tout le monde entier dit Hachem ou Elohim, il y a ma chère qui arrive là.
Allez, viens.
C'est pas ça, non.
Essaye.
Ça peut débloquer. Comment tu veux demander à un chrétien de dire Hachem ou Elohim?
C'est le travail de...
Et un musulman,
comment tu as entendu le cours? On doit aller chercher notre frère.
Tu vois ce nom? Fais un gros poète.
Ils sont capables.
Qu'est-ce qu'il y a?
Un gros poids de table. Du monde entier, comme ça, on va faire HMO
et... C'est extraordinaire comme idée.
T'imagines? Avec Facebook, on se met tous d'accord à une heure précise. On va voir si on va être libéré. On demande ma chiard. Le monde entier demande ma chiard.
Avec ça, c'est simple, bien.
C'est pas possible, je vais mettre trop de rigueur sur toi.
Attends, j'ai une folie.
Ah, t'es là, toi, Cohen.
Fais une petite feuille là pour que je mette le.
Alors ça veut dire que même si ma chia est bien, il y aura de la rigueur aussi.
Ça existe pas, le billet de 1000, non?
Non, si, chez les Marocains, ça existe, bien sûr.
Chez le Machia, il y aura la rigueur dans ce bien. C'est un bien qui va m'envoyer. Il y aura de la rigueur dedans.
C'est une Raoul en arbitre.
Oui. Est-ce qu'il y a des volontaires pour arbitre?
Oui, bien.